Deuxième partie d'une émission où Clotilde de Seille, vous l'entendez, n'est pas là. Alors, avec vous pour la prochaine demi-heure, François Brodeur. On enchaîne immédiatement avec le nanisme, encore, mais pas encore assez à mon goût, parce que c'est quelque chose dont on pourrait parler pendant des heures. Et on a rejoint donc à nouveau Madame Villeneuve. Pas Villeneuve, qu'est-ce que je fais là? Moi, je dis n'importe quoi. Oui, Villeneuve, c'est ça. Karine Villeneuve, bonjour.
Bonjour, oui, c'est bien ça.
Oui, non, je m'excuse, je suis très confus dans mes noms. On se reparle à l'occasion d'un colloque que vous êtes en train d'organiser. Dites-nous à quelle occasion?
Alors nous, d'abord, l'Association des personnes titaises existe depuis 40 ans. On vient de finir notre 40e année de célébration de notre fondation. Alors pour un peu clôturer tout ça, on a décidé d'organiser un colloque sur le nanisme. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un. Il y en avait un qui a été réalisé en 2002. Et celui-là, on l'axe vraiment sur les enjeux en santé et services sociaux chez les adultes ayant le nanisme. Mm-hmm. Alors, parce que bien que au niveau pédiatrique au Québec, les personnes à petite taille, enfants, ont de très bons suivis dans les centres spécialisés tels que Sainte-Justine ou l'hôpital pour enfants de Montréal, il en demeure que pour les adultes, c'est un petit peu plus compliqué. Souvent, on est laissé un peu à nous-mêmes. Beaucoup parmi nous ne connaissent pas nécessairement les complications possibles de notre condition. Parce que c'est un peu ça, le nanisme. C'est mm-hmm. tellement très méconnu encore.
Oui, on a l'impression qu'il y a finalement un, à la limite, deux genres de nanisme différents. Mais
exactement.
C'est beaucoup plus varié que ça.
Exactement. Il y en a des centaines. Et souvent, les gens s'arrêtent qu'à la petite taille. Souvent, on va nous dire, oh, vous êtes juste petit, vous n'êtes pas une des personnes handicapées. Mais le nanisme, entre autres, c'est comme je vous ai dit, c'est une centaine de maladies rares, dans le fond, mm-hmm. qui va causer des complications médicales et des limitations fonctionnelles plus ou moins sévères, et dont le point commun, bien sûr, c'est une affectation au niveau d'un retard de croissance significatif. Mm-hmm. Mais quand on parle de complications, ça peut être des problématiques au niveau des hanches. Plusieurs de nos membres vont avoir des remplacements de hanches au cours de leur vie à cause de l'usure prématurée. Au niveau de la colonne vertébrale aussi, si on ne fait pas attention, on peut avoir des gens qui peuvent même aller jusqu'à la paralysie. Donc, il y a vraiment des choses qu'il faut tenir compte. Et l'idée du colloque, c'est de pouvoir permettre à nos membres, les personnes à petite taille, et aussi aux professionnels de santé, de se pencher un peu sur les problématiques. Mm-hmm. Tant au niveau service spécialisé, on va toucher à la neurochirurgie, l'orthopédie, la recherche, la génétique, mais aussi le côté préventif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien quand on a une forme de nanisme, pour justement prévenir les problématiques là, de cet ordre.
Est-ce que les professionnels qui sont appelés à intervenir, je pense aux orthopédistes en particulier, sont des gens qui sont spécialement formés pour faire face à la condition de nanisme?
En fait, c'est très dur d'être spécialisé en nanisme, et mm-hmm. encore plus au Québec, bien sûr. Nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire à l'association, c'est que quand on a des gens, des spécialistes, que ce soit un neurochirurgien ou un orthopédiste qui a déjà vu des personnes de petite taille, bien, s'il y a un intérêt, on peut alors référer d'autres personnes et développer ainsi une certaine expertise sans le vouloir. Mm-hmm. Souvent, ça va être des spécialistes qui travaillent déjà en milieu pédiatrique spécialisé, et qui vont peut-être, au niveau adulte, peuvent nous voir dans d'autres institutions de la santé. Mais c'est très dur, parce que comme je vous dis, c'est très vaste, c'est très rare aussi, alors que des gens qui se spécialisent là-dedans, c'est un peu difficile.
En médecine interne également, il y a des problèmes qui sont propres aux gens qui ont la condition.
Bien sûr, c'est sûr que les gens qui ont une condition peuvent, comme je l'ai dit, avoir différentes complications, mm-hmm. qui peuvent toucher plus ou moins sévères d'une maladie osseuse à une autre. Certains peuvent avoir une santé assez bien, d'autres, ça peut être des maladies qu'on dit évolutives. Si on parle, par exemple, du syndrome de Morquio, mm-hmm. d'autres peuvent avoir des affectations comme une insuffisance rénale peut causer une forme de nanisme. Alors, et bien sûr, ça va causer d'autres problématiques. Hein. si les personnes n'ont pas une greffe à ce moment-là. On a des membres chez nous qui sont multi-handicapés, comme on dit, qui, en plus d'une courte tête, vont avoir des problèmes au niveau auditif, au niveau visuel, rarement une déficience intellectuelle aussi, là. Mais c'est ça. Règle générale, il y a vraiment des considérations à prendre.
Ce qui pose des problèmes très particuliers à chaque fois. Si on parlait un peu des ressources disponibles, bon, vous nous avez dit d'entrée de jeu que pour les enfants, limite, il y avait du monde, il y avait des ressources pour les rencontrer et les suivre.
Exactement.
Mais pour les adultes?
Ben, c'est ça que nous, à l'association, on travaille fort, justement, à repérer des spécialistes qui vont pouvoir nous suivre. C'est vraiment le travail, le gros dossier qu'on met de l'avant là, depuis plusieurs années ici. Pour que nos adultes puissent être suivis par des spécialistes et ces gens-là puissent accepter de prendre des gens qui ont une anus.
Bâtir votre réseau dans le réseau, finalement.
Exactement, c'est sûr.
Et on parle de combien de personnes visées au Québec?
C'est sûr, c'est difficile de mettre un chiffre exact, parce qu'on, comme on dit, chaque maladie a sa propre prévalence. Mais selon les chiffres qu'on a, on parlerait peut-être d'environ 3 500 personnes de petite taille, tout nanisme confondu.
Et le colloque que vous projetez veut aussi aborder les questions de services sociaux. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers?
Bien, que ce soit au niveau de l'adaptation de notre milieu de vie, la nutrition, la physiothérapie, on veut vraiment, ça c'est un peu l'aspect prévention, travailler un petit peu le côté, c'est ça, les suivis là, quotidiennement. Bien sûr, il y a d'autres problématiques que le nanisme peut faire, mais malheureusement, on n'a pas le temps de le faire au colloque. C'est tout le volet social qui est vraiment très, très présent chez nous. Le regard, entre autres, les préjugés. Mais ça, c'est on fait d'autres activités, entre autres avec le mois du nanisme, là. Pour contrer...
Donc, ça ne sera pas à proprement parler abordé sur le plancher du colloque. Si vous aviez un souhait à formuler, là, mettons que vous avez la possibilité d'asseoir Gaëtan Barrette devant vous, là, et il n'a pas le droit de se lever avant que vous lui ayez parlé, vous lui demandez quoi?
Bien, en fait, nous, on voudrait que au Québec, les personnes, les adultes qui ont une forme d'anémie puissent avoir accès justement à des soins et des suivis aussi plus préventifs au niveau de la condition. Nous, on veut bâtir, on veut, avec le système de la santé, je comprends que c'est limité, mais on veut aider afin que nos membres puissent de façon plus facilement. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on veut aussi que les propres personnes aussi se prennent elles-mêmes en charge aussi, puissent connaître leurs problématiques, les signes, les symptômes, quand les consulter. Enfin, on veut vraiment travailler les deux aspects, autant le système de santé que les individus aussi qui vivent la condition.
Oui, parce qu'il faut bien dire, le meilleur gestionnaire du dossier médical d'une personne, c'est encore la personne elle-même, et c'est exact. Surtout vrai quand vous avez des problèmes qui sont des maladies rares. Bien souvent, c'est à vous d'informer le réseau de la santé de votre condition et des particularités qui s'y rattachent.
Exact. Et l'association fait beaucoup de travail en ce sens et accompagne aussi les personnes aussi là, dans leur démarche. Là. Nous, on est toujours présents là, avec les personnes
Alors,
à ce niveau.
En terminant, Mme Villeneuve, le colloque, c'est quand, c'est pour qui et c'est où?
Alors, c'est le samedi 30 septembre prochain. Ça va avoir lieu à l'hôtel Gouverneur Place du Puy à Montréal. Alors, toute la journée, de 8h30 à 17h. C'est bien que toute personne intéressée par le nanisme soit la bienvenue. Bien sûr, c'est destiné d'abord aux adultes vivant la condition et les parents aussi, ainsi que les professionnels de la santé. Et j'aimerais mentionner que vers la fin de la journée, vers 16h, nous aurons une conférence avec M. Denis Fortier, le physiothérapeute de CHU Sainte-Justine et auteur de plusieurs livres dans la série Conseils d'un physio, qui viendra faire une conférence. Les gens peuvent, s'ils veulent aussi, participer simplement à cette activité-là. Il va y avoir un cocktail qui va suivre. Alors, les gens peuvent aller sur notre site Internet. Quand ils arrivent, là, il y a un petit bouton « colloque ». qui ont juste à cliquer pour avoir tous les détails, le programme, l'horaire. Et il y aura bien sûr des mises à jour régulièrement là, pour plus la date va arriver.
Eh bien, Madame Villeneuve, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter un colloque avec énormément de participants et énormément de communication et d'échanges, parce que ça aussi, c'est important de se former en réseau. Alors, merci beaucoup.
Bien, merci beaucoup de l'invitation.
Au revoir.
Au revoir.